En finir avec le mythe du plus vieux métier du monde. C'est l'ambition portée en 2011 par les députés Daniel Bouquet, socialiste, et Guy Geoffroy de l'UMP, l'ancien nom du parti Les Républicains. À l'Assemblée nationale, ils déposent un rapport, le premier qui dresse un état des lieux de la prostitution en France. Le constat est accablant, la prostitution est quasi intégralement aux mains de réseaux de traite d'êtres humains. De cet état des lieux naîtra une loi, la fameuse loi abolitionniste de 2016, celle qui pénalise les clients. Désormais, les prostituées ont le statut de victime et ne sont donc plus condamnables. Est-ce la fin d'une discrimination ? Ça se discute et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode.
Vous écoutez Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Le plus vieux stigmate du monde. Un épisode signé Salomé Martin.
Pour comprendre la position de la France et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on va remonter un petit peu le fil du temps. La prostitution ou le fait de vendre des services sexuels existe depuis très longtemps. Au cours de l'histoire, elle est parfois interdite, parfois tolérée et parfois même les deux. Exemple marquant, il y a près de 800 ans, en 1254, le roi de France Louis IX fait interdire la pratique et demande l'expulsion des prostituées des villes. Deux ans plus tard, face, on peut l'imaginer, au désaccord d'une classe masculine dominante, il réautorise la prostitution et les bordels réouvrent. Au cours des siècles suivants, on accuse à tour de rôle les prostituées d'aller à l'encontre des mœurs religieuses ou de répandre des maladies, comme la syphilis au début des années 1800. Mais pourtant, la prostitution n'est jamais longtemps complètement interdite. Les hommes ont, semble-t-il, besoin des prostituées. Sans grande surprise, depuis toujours l'homme est roi, la femme est objet. Avançons pour arriver au siècle dernier. Le monde se réveille au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, choqué par les découvertes horrifiantes des massacres de minorités. On passe sur ce dont on a évidemment un peu moins parlé, à savoir que les Américains libérateurs ont été encouragés à se rendre en France, car c'est un pays où les femmes sont réputées faciles. C'est ce que montrent notamment les travaux de l'historienne américaine Mary-Louise Roberts. Les maisons closes deviennent insuffisantes pour les besoins des soldats et la prostitution clandestine explose, incontrôlée par les autorités. Bref, pour rétablir l'ordre et espérer vivre dans un monde meilleur, de nombreuses institutions internationales sont créées. En 1949, l'ONU adopte la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. La France adhère, mais ne la ratifie que 10 ans plus tard. En parallèle, notre cher pays qui régule alors la prostitution adopte la loi Marthe Richard du nom d'une ancienne prostituée. Devenue bourgeoise après son mariage avec un riche industriel, elle veut être radiée du fichier national des prostituées. On lui refuse. Elle décide donc de retourner la situation et milite pour qu'une nouvelle loi entre en vigueur pour la fermeture des maisons closes. Succès pour Marthe Richard puisque la loi est votée en 1946. Les bordels ferment officiellement pour lutter contre le proxénétisme. Mais on lutte aussi en fait contre les prostituées elles-mêmes, le racolage devient un délit, elles sont donc passibles de poursuites. Face à la répression qui s'intensifie dans les années suivantes, certaines prostituées se mobilisent et vont même jusqu'à occuper une église à Lyon en 1975, mais sans grand résultat. Jusqu'au début de notre siècle, on oscille légèrement entre libéralisation et durcissement. En 2003, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, inscrit dans la loi le délit de racolage passif. Désormais, on peut être poursuivi pour avoir simplement été en mini-jupe au bord de la route et on risque jusqu'à 2 ans de prison. Les lois prises en France ne sont donc pas très cohérentes avec la Convention internationale qui, elle, acte clairement une position abolitionniste. L'abolitionnisme, c'est un courant de pensée qui veut l'éradication totale de la prostitution et qui s'oppose donc à toute réglementation d'un travail du sexe. C'est considérer que la prostitution est une violence faite aux femmes et qu'elle est toujours la conséquence d'une contrainte, qu'elle soit physique, morale, sociale ou économique. Mais comme on vient de le voir, faire en sorte que cette vision prédomine en France, ça semble très loin d'être politiquement et socialement possible. Gardez ça en tête, c'est important pour la suite. Revenons maintenant en 2011 sur ce fameux rapport déposé par une députée de gauche et un député de droite. Ce qu'il contient va bousculer complètement la perception qu'ont alors la majorité des politiciens sur le sujet. D'abord, il montre que depuis le début des années 90, la prostitution en France est très majoritairement devenue étrangère. 80 à 90% des femmes sur le trottoir viennent de pays d'Afrique, d'Europe de l'Est et de Chine. On est loin, bien loin de la représentation des libertines occidentales qui prévaut alors. Pour la première fois, un texte affirme que dans, je cite, « de nombreuses situations, l'entrée dans la prostitution résulte en fait d'une absence d'alternative envisageable ». 380 pages pour expliquer que la prostitution n'est pas un choix et qu'elle n'est donc ni souhaitable ni condamnable. Mais alors, si la prostituée n'est plus coupable, qui l'est ? Le proxénète ? Là-dessus, il y a plutôt un consensus politique. Mais un autre acteur va faire son entrée et c'est là que ça coince sur les bancs des élus. Le rapport questionne le comportement du client. Quelle est la responsabilité de celui qui achète les faveurs sexuelles ? Nous sommes en fin de mandature législative. Il est un peu tard pour poser cette question dans une proposition de loi. Faute de mieux, les deux députés font adopter en décembre une résolution qui affirme la position abolitionniste de la France et qui pose les prémices de cette fameuse responsabilité du client. Nous sommes désormais en juin 2013. Najat Vallaud-Belkacem est, depuis un mois, à la tête du ministère du droit des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, sous la présidence de François Hollande. Le journal du dimanche lui propose une interview. Le 23 juin, le papier paraît, avec en titre une citation de la ministre « Je veux faire disparaître la prostitution ». Le lendemain, tous les médias reprennent ses propos, embarquant la prostitution dans la spirale médiatique. Chaque fois que Najat Vallaud-Belkacem est sortie, les journalistes abordent le sujet. À tel point que, selon des témoins, le président de la République finira par demander en Conseil des ministres « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de disparition de la prostitution ?» Poussée par des conseillères abolitionnistes, la ministre prend le sujet à bras-le-corps. Mais pour que cela passe, elle est convaincue qu'il faut que ce soit une initiative parlementaire, une proposition et non pas un projet de loi. C'est là qu'elle va trouver la députée socialiste Catherine Coutel, qui préside la délégation aux droits des femmes. Fraîchement élue, l'ancienne conseillère municipale de la Vienne a vu les ravages de la prostitution subie par les étrangères dans sa circonscription. Avec d'autres députés, dont Maud Olivier, également socialiste, elle se penche sur la question. Après avoir convaincu le Parti socialiste qu'il est nécessaire de pénaliser le client, il faut s'assurer d'obtenir assez de voix à l'Assemblée. Un travail de longue haleine, mais qui finit par payer, même si certains partis de la majorité restent opposés au texte. C'est par exemple le cas des écolos, qui considèrent que pénaliser le client revient à pénaliser la prostituée elle-même et que cela ne fera qu'accroître la violence. Les principales mesures du texte donc sont la dépénalisation des prostituées, l'instauration d'un parcours de sortie avec une aide financière, un accès au logement et une régularisation, et bien sûr la pénalisation des clients. Le fait de solliciter des services sexuels contre rémunération sera puni d'une amende de 1500 euros maximum. La loi est examinée en première lecture par l'Assemblée nationale en novembre 2013. Dès lors, le combat médiatique et politique commence, comme en témoigne cet échange le 22 novembre entre Najat Vallaud-Belkacem et le journaliste Jean-Jacques Bourdin à l'antenne de RMC et BFM TV.
Est-ce que les femmes ne doivent pas aussi avoir le droit de faire de leur corps ce qu'elles veulent ?
En échange d'argent, alors même que la prostitution n'est jamais un projet de vie. La prostitution, c'est une contrainte. Est-ce que c'est souhaitable pour notre société ?
Vous
Est-ce que notre société ne doit pas fixer des bornes
ne pratique pour des dire relations ce qui est sexuelles tarifaires en le souhaitant, en le voulant ? Vous croyez que ça n'existe pas ?
La pénalisation du client, c'est la mesure qui coince, le fameux article 16. Pour de nombreuses personnes, cette mesure qui excite les foules de l'aveu même d'une députée n'est pas une garantie pour lutter contre la traite. S'y ajoute l'argument lancé par certains policiers. Comment appliquer cette mesure ? Sur du flagrant délit ? Impossible ! Bon, en l'occurrence, la pénalisation, quand elle concernait les prostituées, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais surtout, ce qui bloque, c'est qu'il existe un lobby qui souhaite la libéralisation du marché sexuel. Un mouvement puissant, qui l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui, et qui demande la reconnaissance des travailleurs et travailleuses du sexe. Et le lobby est si fort qu'il est soutenu par des associations reconnues d'intérêt public, comme, pour ne citer qu'elles, Médecins du Monde. « Mais pourtant, pour les porteurs de la proposition de loi, responsabiliser le client, c'est essentiel pour éradiquer la prostitution. Ce sont eux qui abusent des femmes. Rappeler ce qu'est un client, c'est ce que Catherine Coutel fait un jour à l'Assemblée nationale. Elle lit des extraits d'un ouvrage de Patrick Jean qui a repris des commentaires de clients de la prostitution.
En voyant qu'elle souffrait, j'avais décidé de venir à bout en 20 minutes. Elle cachait son visage avec ses mains. Vous pouvez croire ça ? Elle commence à crier. Je lui ai fait mal alors que j'avais même pas passé la troisième vitesse. C'est une des plus sales putes que j'ai baisées. Elle aime être frappée au visage et traitée violemment. Après ça, on nous dira que le client n'a rien à faire là-dedans et qu'on n'a pas à le responsabiliser.
Le texte fait la navette parlementaire pendant 3 ans. 3 ans de débat, toujours sur cette question, qui finalement sera tranchée en faveur du PS. La loi est adoptée.
Pour 268 contre 138, l'Assemblée nationale a adopté.
Je vous remercie d'avoir accepté de regarder la prostitution telle qu'elle est et pas telle qu'on la rêve. Je vous remercie de nous donner les moyens de lutter efficacement contre les réseaux. Merci de tendre la main aux victimes des réseaux, de la traite et de l'exploitation que vous dénoncez tous.
Nous étions en 2016. Alors, la loi permet-elle de tendre la main aux victimes de la traite et de l'exploitation, comme l'a mentionné Najat Vallaud-Belkacem ? Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Une enquête publiée par Mediapart en 2023 révèle que 14 départements n'ont toujours pas mis en place de commission pour les parcours de sortie de la prostitution. Et là où ça existe, les chiffres sont loin d'être mirobolants. Dans la Vienne, où la commission existe depuis 7 ans, seulement 17 femmes ont eu accès au parcours de sortie. J'ai eu envie d'échanger avec Catherine Coutel, ex-députée de ce département, pour comprendre si, 8 ans après la loi, le changement de pratique et de mentalité a vraiment eu lieu.
Je pense que c'est une loi qui a au moins qui a fait discuter de ce sujet-là, qui l'a rendu visible, qui a rendu les personnes prostituées visibles, qui a fait annoncer qu'il y avait des clients, parce que le parcours de sortie, on aimerait qu'il y en ait beaucoup, beaucoup plus, hein, beaucoup plus d'argent, de moyens, de volonté, mais il fonctionne quand il y a des associations pour les accompagner. Par contre, la pénalisation des clients, il n'y a pas une volonté politique très forte de l'appliquer. Mais par contre, quand il y en a, pour être en liaison avec la Fondation CEL, qui fait beaucoup de stages de clients, puisque c'est une des peines, ils disent que ça les marque, hein, quand ils entendent ce qu'on leur dit. Il me semble qu'ils nous disent que 90% des hommes n'y retournent pas, de ceux qui ont suivi le stage. Il y a un manque de moyens, c'est sûr. On avait mis, nous, un fonds qui venait des fonds qui sont pris au Proxénète et qui n'a pas été mis en place par Bercy. Ça a été un de nos échecs. On ne l'a pas vu arriver, mais ça a été vu après. Donc il n'y a pas assez de moyens, c'est pas en donnant 5 000, 7 000 euros à des associations qu'on crée un poste pour être suivi. Il y a le problème de l'hébergement. On a eu un problème qu'on a mesuré, mais moi je ne l'avais pas mesuré à ce point-là. On voulait faire donner le RSA aux femmes qui avaient la sortie de la prostitution. Et ça n'a pas été possible, le gouvernement n'a jamais voulu, pour une raison idéologique que je ne comprends pas, ça aurait été stigmatiser le RSA. Ils ont donné la FIS, qui est moins forte.
Petite parenthèse, la FIS, c'est l'aide financière à l'insertion sociale qui est donnée aux personnes dans le parcours de sortie de la prostitution. Le montant varie selon les enfants à charge, mais pour vous donner une idée, une femme seule touche 343 euros.
Et donc, fait des problèmes pour avoir un HLM parce qu'il n'est pas assez élevé. On a beaucoup de mal à ce qu'elle puisse louer, faire des locations. À part la FIS, qui pour moi pourrait être réglementaire, parce qu'on pourrait l'augmenter de manière réglementaire, le reste relève de la manière dont on applique la loi. Il y a trop de dangers pour toucher à la loi. Je pense qu'il ne faut pas y toucher. D'ailleurs, c'est un rapport de l'IGAS de 2020. Hein. Il dit que cette loi est bonne là où elle est bien appliquée. On a un certain nombre de domaines. L'information, recommencer de l'information du public, la formation des jeunes. Dans l'éducation à la sexualité, normalement, il y a une sensibilisation à la prostitution, mais comme elle n'est pas faite, ça non plus. C'est un combat que vraiment je continue à mener à l'international, au national. Je suis allée devant la CEDH manifester, parce que les travailleurs du sexe ont amené la loi devant la CEDH quand même.
Le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme date de 2019. 260 revendiqués travailleurs et travailleuses du sexe ont attaqué la loi de 2016. Et à l'été 2023, la CEDH a jugé la requête recevable. La loi pourrait donc être menacée. Cela montre bien que le combat des abolitionnistes n'est pas complètement gagné du côté légal. Et d'ailleurs, il n'est pas gagné du tout sur d'autres aspects.
8 ans après, non, on continue d'avoir les mêmes représentations, malgré tout ce qui a été mis à jour.
Claudine Le Gardinier est journaliste. Depuis plus de 30 ans, tous les mois, elle recueille des témoignages pour l'association Le Mouvement du Nid. Des témoignages de survivantes, une parole quasi inexistante dans les médias, et la loi de 2016 n'y a rien changé.
Le débat avant la loi, il a pratiquement tout dit. Là, on a entendu celles qu'on appelle les survivantes de la prostitution. Elles ont révélé les violences qu'elles enduraient. On a parlé enfin de la question du client prostitueur. On a parlé des proxénètes. Il y a eu le procès du Carlton.
Petit rappel, l'affaire très médiatisée du Carlton, c'est celle qui a révélé en 2011 que des personnalités françaises participent à des partous avec des prostituées. Dominique Strauss-Kahn est mise en cause, l'ancien ministre est alors directeur du Fonds monétaire international. Il a depuis été relaxé. En revanche, le procès a mis en lumière un véritable réseau de proxénétisme, notamment géré par celui que l'on surnomme Dodo la Saumure, qui a lui depuis été condamné.
Au procès du Carlton, on a entendu ces femmes que les types comme Dodo la Saumure ou Dominique Strauss-Kahn nous présentait comme des libertines et puis eux comme des libertins, tout le monde s'amusait. On a vu les frigos vides, ces femmes qui devaient absolument faire nourrir leurs gamins. Eh bien moi je me suis dit depuis, mais si, on en parle encore comme avant. On en parle comme avant et on fait comme si on n'avait rien entendu. C'est comme si sur la prostitution, les faits qu'on révèle n'imprimaient pas dans les cerveaux. Des clients, il n'y a pas un mot, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Et même dans des articles que j'épluche sur des réseaux de proxénétisme, des trucs absolument immondes, les médias se font le relais du regard du client, du regard du prostitueur. Moi j'ai envie de raconter ce que me disait une femme que j'ai interviewée il y a quelques temps de la prostitution. Elle m'a dit, être une prostituée, c'est être à genoux, nu, devant un type qui est debout, d'avoir sa bedaine sur votre tête, qui pend sur votre tête, et lui se regarde dans le miroir. C'est ça la prostitution. C'est l'image de la domination masculine, hein, tout simplement. Et cette image-là, elle est incroyablement difficile à éradiquer, mais je dirais, c'est encore plus étonnant dans le contexte de MeToo aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que les femmes révèlent sur leur exploitation sexuelle à tous les niveaux, et là on pense à ce qui se passe dans le cinéma et ailleurs, on se demande comment le bastion prostitutionnel reste protégé. C'est vraiment le dernier bastion dans la société, le dernier endroit où vraiment ce droit sexuel masculin est encore complètement conforté, défendu, il reste cet endroit où on dirait qu'une espèce d'inconscient collectif s'accroche à ce dernier endroit où on va sauver ce droit sexuel masculin de soumettre des femmes. Donc on est dans un monde de mecs où entre mecs, eh bien, on s'invite quand même à aller voir les prostituées et à se payer du bon temps. Et ça reste. On a énormément de mal à venir à bout de ça.
C'était Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Salomé Martin en février 2024. Coordination Thomas Rozek et Céline Asselot. Réalisation Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.